Web ESR, une conférence en ligne proposée par Amundi, épargne salariale et retraite. Quelle solution retraite pour votre politique ressources humaines? Une conférence animée par Fabrice Coustet.
Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire proposé par les équipes d'Amundi, épargne salariale et retraite. Le thème du jour, un thème passionnant, préparer sa retraite, oui bien sûr, mais préparer sa retraite avec son entreprise. Alors les dispositifs existent, ils sont nombreux et viennent d'être récemment modifiés en profondeur et avantageusement grâce à la loi Pacte. Alors très pratiquement, ce qu'on va vous proposer justement, ce sont des réponses à toutes ces questions. Quelles solutions à mettre en œuvre selon les catégories de salariés que pour l'ensemble des personnels ou bien pour les cadres, pour les dirigeants, pour les autres? Quelle gestion financière choisir sur ces dispositifs à long terme? Comment pratiquement on met en place ces politiques? Avec quels outils, quel type de communication, quel accompagnement, quelle technologie on peut vous proposer aujourd'hui? Ce sont ces questions que nous allons aborder avec nos deux spécialistes sur le plateau avec moi, Carole Fargier. Bonjour Carole.
Bonjour à tous.
Vous êtes responsable adjointe du pôle conseil expertise et développement retraite chez Amundi, donc Amundi épargne salariale et retraite. Et à distance, Philippe Cerceau. Bonjour Philippe.
Bonjour, bonjour à toutes et tous.
Le responsable du pôle conseil expertise et développement retraite d'Amundi épargne entreprise et épargne salariale et retraite. Alors, merci à vous d'être présents. Merci à tous ceux qui se sont connectés. Vous le savez, le principe du webinaire, c'est d'avoir aussi quelque chose d'interactif. C'est-à-dire que tout au long de la session, vous pouvez dès à présent poser vos questions. On les prendra au fur et à mesure ou on réservera 10 minutes à la fin si elles sont trop nombreuses. Le canevas est très simple. Pendant 40 minutes, on va avec nos experts définir les contours de la question et puis ensuite on aura vos questions et vos questions et bien sûr les réponses des experts. Voilà, donc n'hésitez pas, il y a un bouton commentaire, vous le connaissez maintenant ce principe. On est bien sûr toujours dans cette utilisation des webinaires puisque pour parler à un maximum de gens, mais très prochainement on l'espère, on pourra peut-être se retrouver en vrai dans la vraie vie. Voilà pour cette introduction. Alors, quelle solution retraite pour votre politique ressources humaines? C'est parti pour ce webinaire. Je me tourne tout de suite vers vous, Carole. On va tout d'abord aborder un petit panorama des différentes solutions avant et après Pacte, parce que c'est vrai que ça a été un petit peu, peut-être pas le Big Bang, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé avec cette loi Pacte il y a 2 ans.
Effectivement, la loi Pacte est venue s'inscrire dans une sorte de révolution sur le sujet de la retraite supplémentaire en France, puisque auparavant, vous aviez un échantillon assez large de dispositifs de retraite à la fois individuels et à la fois collectifs en entreprise. La loi Pacte, justement, est venue finalement créer un corps de règles communs avec un plan d'épargne retraite qui vient s'inscrire avec 3 visages différents. Le PER collectif, le PER obligatoire ou le PER unique, et qui, dont les 2 premiers, viennent finalement s'inscrire dans le prolongement de dispositifs existants qu'on connaît bien. Le PER col, le PER collectif, prend la suite du PER co. L'article 83 devient le PER obligatoire. Et un nouveau venu dans ce paysage des PERs d'entreprise, le PER unique. Et donc, il faut effectivement maîtriser toutes ces différences, puisque, bien sûr, derrière ce choc de simplification, il y a certes des règles communes, mais aussi beaucoup de différences. Et l'entreprise, lorsqu'elle réfléchit à la mise en place d'un dispositif de retraite pour ses salariés, ou certains d'entre eux, elle doit maîtriser tout cet environnement nouveau qui n'est pas évident puisque, on a le recul d'à peine 1 an et demi dans la pratique métier et c'est donc important d'être pour l'entreprise accompagnée.
Philippe Cerceau, on vient d'entendre Carole sur le choc de simplification. Je pense à nos auditeurs, ceux qui écoutent ont l'impression pour toutes ces fonctions ressources humaines que plus on veut simplifier et plus ça surajoute une nouvelle couche, d'où l'idée de comment ça va se passer effectivement le passage de l'un à l'autre. Est-ce que les mécanismes sont d'ores et déjà prévus?
Alors tout à fait, on est dans un choc de simplification. Alors il y a tout de même une simplification en passant des dispositifs précédents à ce dispositif nouveau qui a différentes déclinaisons. Et comme le disait Carole, c'était important en effet de Alors c'est à la fois simplifié et il y a quand même pas mal de subtilités, donc c'est important d'être accompagné. Il y a quand même quelques écueils à éviter, et c'est important de, en fonction du contexte de chaque entreprise, de trouver la bonne solution et la solution la plus appropriée. Alors le passage des anciens dispositifs aux nouveaux dispositifs, c'est aussi un enjeu en effet, puisque on se rend compte aujourd'hui que à peu près 70% des PERCO ont été transformés en PERCOL, donc là je donne des chiffres à Mundi, et qu'en termes de capitaux, on est plutôt sur une transformation de 50% des capitaux de PERCO qui ont été transformés en PERCOL, puisqu'en effet, tous les petits PERCO ont été quasiment transformés. Par contre, ce sont plutôt quelques PERCO de grandes entreprises qui, à ce jour, n'ont toujours pas été transférés et transformés. Donc, il y a un vrai sujet dans la transformation. Et c'est vrai qu'on est dans un moment un petit peu particulier où, en fait, la réglementation sur ces dispositifs à cotisation définis est maintenant claire, a été modifiée. On a une vision un petit peu plus claire de la façon dont les entreprises souhaitent les utiliser. Et les entreprises sont à un moment où je pense certaines ont déjà sauté le pas et revoient finalement les anciens dispositifs en place pour les réadapter finalement au contexte actuel de l'entreprise et pour tirer parti de ces nouveautés de la loi Pacte. Et puis d'autres entreprises ont mis certaines briques en place, mais se disent pourquoi pas étendre, pourquoi pas revoir telle modalité. Et donc on est à un moment en effet tout à fait particulier dans cette approche retraite d'entreprise.
Oui, Carole, on a vu que, évidemment, ces nouveaux dispositifs, on va y revenir bien évidemment dans le détail dans un instant. Je voulais juste revenir sur le fait qu'aujourd'hui, on est dans un moment assez particulier après cette crise de pandémie qu'on a connue, avec beaucoup d'épargne d'une manière générale. Et puis, le fait qu'on a de plus en plus besoin, on le sent, d'organiser son épargne, ça peut se faire de plus en plus tôt. Et on voit aussi que les jeunes générations sont concernées. Ces outils sont quand même extrêmement efficaces pour préparer sa retraite, en plus, bien sûr, de la retraite qu'on a tous, enfin presque tous, en tout cas tous les salariés. C'est un dispositif supplémentaire et à utiliser pour les entreprises.
Absolument. Donc, on est sur des dispositifs qui, on va dire, sont constitués par deux phases. Vous avez une phase de constitution de l'épargne et évidemment, plus vous êtes épargnant jeune et plus vous allez vous constituer, évidemment, au regard de la durée de capitalisation, une épargne assez importante. Donc, les jeunes générations sont vraiment très intéressées à alimenter leur plan d'épargne retraite. Donc, c'est important. Lorsqu'une entreprise, finalement, assez jeune, dont la population est assez jeune, essaye de penser justement à ses collaborateurs, bien sûr, de tous les âges, mais également, c'est un facteur très fidélisant pour l'entreprise que de mettre en place ces dispositifs dès le plus tôt possible.
Fidélisant finalement. Et puis d'attractivité. On est en pleine guerre des talents, en tout cas sur des métiers en tension. On pense à toutes les services numériques en particulier. Le fait qu'il y ait déjà un plan ou des plans comme ça d'intéressement d'épargne salariale, c'est un plus pour la RH quand on essaye d'attirer des nouveaux talents.
Vous avez tout à fait raison. Donc c'est à la fois un élément fidélisant, mais il ne faut pas oublier aussi que le contexte de crise sanitaire rend nécessaire, on va dire, de renforcer cette attractivité, trouver, on va dire, de nouveaux leviers pour, on va dire, mobiliser les salariés autour du projet d'entreprise. On sait que en 2021, malheureusement, la crise économique fait que les primes d'intéressement, de participation vont sans doute être moindres. Donc, de ce fait, le sujet de la retraite en entreprise prend tout son sens, puisque ça constitue un autre levier important pour fidéliser les salariés.
Donc, vous l'avez dit, première étape, évidemment, capitalisation. Deuxième étape, retraite supplémentaire en entreprise. Et puis il y a la réforme également Agir Carco qui est en cours.
Alors tout à fait, et ça c'est important de noter que la loi Pacte finalement, qui concerne essentiellement la retraite en entreprise, s'inscrit finalement dans une double réforme. C'est-à-dire que vous avez eu la réforme de la retraite complémentaire avec l'Agir Carco qui a fusionné il y a quelques années, et puis bien sûr c'est l'avenir qui a été reporté, la réforme structurelle de la retraite de base. Et c'est pour ça que la loi Pacte, finalement, vient remettre la responsabilité au sein même de l'entreprise de la constitution d'une retraite supplémentaire. Et c'est la raison aussi pour laquelle ces dispositifs de retraite en entreprise sont accompagnés de mesures fiscales et sociales très incitatives pour permettre justement aux dirigeants, aux directeurs des ressources humaines de construire finalement une véritable épargne retraite en entreprise et en lien aussi avec les valeurs, puisque la retraite, c'est aussi un sujet qui s'inscrit totalement dans la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise.
Bien sûr, bien sûr. Philippe Cerceau, on a vu hein, qu'on est avec cette pandémie, là aussi, un calendrier des retraites, des réformes qui a été bouleversé, notamment la réforme des retraites. On ne pense pas que ça sera abouti à la fin de ce quinquennat pour le gouvernement en place. En tout cas, comme disait Carole à l'instant, on sent que la retraite, c'est vraiment au cœur des préoccupations des Français, mais également de l'ensemble des directeurs des ressources humaines.
Clairement, on est à un moment où, en fait, on a beaucoup parlé de retraite sur les 2-3 dernières années. Donc, cette réforme des retraites du pilier 1 qui n'a pas abouti, donc pour la partie retraite de base, donc n'est pas abouti. Néanmoins, on en a quand même beaucoup parlé. Donc, c'est tout le monde est bien au courant des enjeux hein, et des difficultés sur les taux de remplacement dans les années à venir. Donc, comme sur le pilier 1, la partie Agir Carco, il y a eu donc cette fusion que l'on vient d'évoquer. Et puis sur le pilier 2, on a à la fois la réforme des cotisations, des systèmes à cotisation définie, donc que sont les PER, qui est notre sujet aujourd'hui. Et puis il y a aussi la réforme en fait des dispositifs à prestations définies, donc ce qu'on appelle plus couramment en fait l'article 39. Donc pour s'adapter en fait à la nouvelle réglementation européenne. Donc on sent que le paysage est en train de changer, de changer de façon importante, sachant que la brique importante, en fait, et qui est l'élément, en effet, qui fait partie vraiment de la boîte à outils du DRH et du CNB. Donc, cette partie cotisation définie, maintenant, est aboutie et c'est sans doute le bon moment pour l'envisager, oui, tout à fait.
Ouais, d'autant qu'on voit de plus en plus que, on le disait, hein, c'est la préoccupation des Français, c'est le moment de s'y intéresser et diverses enquêtes hein, très récentes qui ont été menées chez Amundi, mais on en reviendra dans un prochain webinaire, eh bien montrent que effectivement les salariés hein, sont de plus en plus intéressés, et, ont vraiment envie de se pencher sur le sujet et toutes les entreprises sont concernées finalement, quelle que soit leur taille.
Alors moi, je voudrais peut-être dire justement Philippe un chiffre par rapport à cette enquête. Donc, dans cette enquête, on a un chiffre très intéressant, c'est que 88% des salariés font confiance aux dispositifs mis en place dans l'entreprise pour préparer leur retraite et pour préparer leur épargne. Donc, c'est vraiment un chiffre très, très important. Donc, juste très rapidement, c'est une enquête en fait, qui concerne 3000 utilisateurs en fait, d'épargne salariale et retraite. Et donc, c'est tout frais puisqu'elle a été publiée donc, le 1er juin et elle a été réalisée par le cabinet Audirep pour Amundi et S2H.
Merci Philippe pour cette précision. Carole.
Effectivement, sur le sujet de la retraite supplémentaire en entreprise, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, évidemment, sont concernées. Et je voulais également indiquer que, certes, les entreprises grand compte ETI ont déjà des dispositifs, en tout cas, souvent... dans une bonne proportion, au moins la moitié d'entre elles. Donc ces dernières sont en face plutôt de modifications, de transformation de leurs dispositifs existants dans le cadre justement de cette mise en conformité loi Pacte. Mais il y a aussi toutes les entreprises, on va dire, de taille plus modeste qui sont concernées également par le sujet. Et la loi ASAP, notamment pour les TPE de moins de 11 salariés, est venue encourager et faciliter justement les modes de mise en place de ces nouveaux plans d'épargne retraite.
ASAP, c'est As Soon As Possible ou c'est un acronyme autre?
C'est la loi justement qui vient simplifier justement les mesures, en fait. Je n'ai plus exactement le nom de l'acronyme, excusez-moi.
Mais c'est bien trouvé, voilà. En tout cas, et on sent l'urgence.
C'est la simplification.
Qu'il y a à simplifier, en tout cas, ou à s'y mettre hein, pour les plus petites entreprises. Les grosses, justement, sont déjà équipées. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec le comment faire hein, maintenant. Première question, c'est comment choisir les bons dispositifs de retraite pour mon entreprise, puisque, on l'a dit, eh bien là aussi, on n'est pas avare hein, d'acronyme. PERCOL, PERO, PERU, article 82, L137. 11.2, je m'adresse à la juriste que vous êtes, Carole, hein, puisque vous êtes docteur en droit. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette transformation et voilà, sur ces nouveaux dispositifs, en tout cas, lesquels on peut choisir en fonction de quels critères ?
Alors effectivement, on a l'entreprise à se poser la question vraiment de la quelle est la stratégie que je veux mettre en place pour mes salariés, comment je veux faire évoluer un dispositif existant. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, vous avez trois plans d'épargne retraite différents qui, on va dire, obéissent à deux structures assez différentes, c'est-à-dire que vous avez les dispositifs dits facultatifs, donc finalement c'est le salarié titulaire qui va souhaiter épargner notamment son intéressement, sa participation et profiter ainsi de l'abondement de l'entreprise, voire même verser sur son percol l'épargne-temps. Donc là, on est sur des dispositifs dits facultatifs, percol. Vous avez au contraire les dispositifs dits obligatoires, qui ressortent du PER obligatoire, justement par définition. Et vous avez finalement la fusion, le regroupement de ces deux plans avec le PER unique qui permet finalement d'ajouter les deux moteurs qu'on a vus sur le PER col et sur le PER obligatoire de façon à augmenter encore plus finalement l'épargne retraite en entreprise. Donc certes, il y a trois visages différents, mais qui pour ces plans d'épargne retraite obéissent tout simplement à des objectifs très différents selon les souhaits de l'entreprise, selon son budget également, puisque le PER obligatoire va venir répondre, si vous voulez, à cette notion de catégorie objective, c'est-à-dire que l'entreprise va pouvoir déterminer un collège spécifique, bien sûr une catégorie dite objective en référence au code de la sécurité sociale, mais voilà, il peut finalement toucher une partie seulement de sa population, et notamment en écho à la baisse des taux de remplacement dont on sait qu'elle est très différente entre le fait d'être cadre ou non cadre, ou voire même des cadres dirigeants. Car il est important aussi de bien maîtriser dans ce nouvel environnement, finalement, la place aussi qui est consacrée aux dirigeants. Puisque selon la nature du dispositif, il va être habilité à y participer ou pas.
Alors on va voir ça dans un instant, justement, les catégories de salariés, ensemble du personnel dirigeant ou pas. Philippe, là, pour faire un complément sur effectivement ces trois dispositifs, donc PER collectif, PER obligatoire ou fusion dans un PER unique, voilà, à partir de quand on peut s'y pencher? Je pense à ceux qui nous écoutent, qui ont déjà mis ces dispositifs en place, qui pensent à soit à les refaire, à les faire évoluer, ou bien à les développer. À partir de quand il faut s'y intéresser? Est-ce qu'il y a une taille d'ailleurs d'entreprise ou pas forcément?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de taille d'entreprise, puisque maintenant, en effet, la loi ASAP permet en fait de toucher les toutes petites entreprises. Donc, il n'y a pas de toutes les entreprises sont vraiment concernées. Des offres existent d'ailleurs pour répondre en fait aux attentes de chaque catégorie d'entreprise. Et je pense que dès maintenant, tout est en place pour déjà pouvoir répondre aux attentes de toutes les entreprises. Je crois que ce qu'on peut préciser, c'est que côté Amundi, nous travaillons main dans la main avec Crédit Agricole Assurance, et donc on l'abordera peut-être tout à l'heure, mais on a finalement toutes les offres finalement en magasin, qu'elles soient assurantielles ou compte-titres, donc celles gérées par les sociétés de gestion. Et donc on peut vraiment mettre en œuvre la solution la plus adaptée pour chaque client, dans un contexte compte-titre, dans un contexte assurantiel, avec donc un percol, un perro, un perru, selon le contexte. Donc vraiment, là, maintenant, tout est en place pour pouvoir, et on reçoit de nombreux appels d'offres depuis le début de l'année, puisque beaucoup d'entreprises se sont lancées sur ce sujet.
Est-ce que justement, vous voyez des plus petites entreprises qui viennent à vous, qui vous contactent en ce moment pour dire, tiens, voilà, on saute sur cette loi d'accélération et de simplification de l'action publique, voilà l'acronyme hein, ASAP. Est-ce qu'il y a un changement là, dans les tendances de ceux qui vous contactent en ce moment?
Alors, On a en effet de très nombreux contacts avec des entreprises de taille plus petite et même des toutes petites entreprises à la fois sur des populations sur l'ensemble de la population de ces petites entreprises ou sur une catégorie au sein de ces entreprises. Donc on a vraiment des demandes sur toutes les tailles d'entreprises actuellement, sur toutes les tailles de groupe.
Alors, très bonne transition. Du coup, on sait que c'est possible de faire ces dispositifs sur n'importe quelle taille d'entreprise. Maintenant, évidemment, il y a des catégories de salariés. Carole, vous nous en avez parlé, qu'on soit cadre, non cadre, qu'on soit dirigeant. Là, quelles sont les pistes qu'on peut leur proposer ?
Alors, s'agissant du père collectif, évidemment, là, on est exclusivement sur un dispositif collectif. Hein. Par définition, c'est inscrit dans son nom.
Donc, c'est pour tous les employés, de manière uniforme.
C'est tous les entreprises, tous les salariés, pardon. Donc, il ne peut pas y avoir de différence de traitement. En revanche, dès lors qu'on veut associer, on va dire, certains collèges, notamment le collège cadre, eh bien là, il faut se diriger soit vers le père obligatoire, soit vers le père unique qui, dans certaines conditions, peut permettre d'avoir une alimentation via des cotisations obligatoires d'un compartiment. Donc là, on est sur le père unique, finalement, sur un dispositif à double détente qui est à la fois collectif, mais qui permet une alimentation par des cotisations obligatoires d'une partie de la population. Donc voilà, ce sont différentes règles à maîtriser, mais on observe également avec Philippe que, comme on l'indiquait tout à l'heure, on est à la fois à gérer des mises en place pures, mais également des transformations, notamment de perco en percol, ou bien des dispositifs 83 à transformer en père obligatoire. Et c'est l'occasion justement d'auditer, on va dire, les dispositifs existants et parfois de se rendre compte que certaines catégories qui étaient indiquées dans le régime de retraite de l'entreprise ne sont plus du tout licites. Et donc, par là même, l'entreprise risque un redressement URSSAF. Donc, la raison de l'accompagnement est essentielle pour justement bien conseiller l'entreprise, à la fois au niveau juridique, au niveau technique. Et puis, bien sûr, il y a l'estimation du budget qu'elle va pouvoir consacrer, puisque c'est l'occasion finalement de repenser la retraite et de éventuellement réélargir la base des bénéficiaires de façon à faire profiter éventuellement plus de monde du dispositif, sachant qu'il y a une baisse du forfait social qui est à intégrer justement dans cette notion du budget, puisqu'on passe de 20% sur les anciens dispositifs pour tout ce qui est contribution employeur à un taux de 16%. Donc, quelque part, il y a derrière ces transformations un levier économique que l'entreprise peut justement pleinement utiliser.
Philippe Sarson, on s'aperçoit que cette remise à plat, c'est l'occasion pour les RH, pour les dirigeants d'entreprise, de regarder ce qu'il y avait déjà et de l'adapter. Et souvent, on le voit avec cette nouvelle loi Pacte, peut-être avantageusement, en faisant baisser peut-être l'imposition au passage.
Oui, tout à fait, puisqu'en effet, comme indiqué juste à l'instant par Carole, en fait, le forfait social est passé de 20 à 16%, donc ce qui n'est quand même pas neutre. Hein. Et donc, c'est un avantage certain dans le fait de transformer son perco en percol ou son NAT 83 en perro. Et donc, en effet, par ailleurs, en fait, on a une harmonisation, on ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais il y a une harmonisation de la fiscalité pour les salariés entre les différents dispositifs retraite qui facilite aussi la compréhension par les salariés de cette fiscalité, alors qui reste tout de même un petit peu complexe, mais qui est néanmoins beaucoup plus simple qu'auparavant dans les dispositifs préexistants.
Ouais. En deux mots, comment ça va être imposé ? C'est quoi ? On a toujours, j'imagine, CSG, CRDS, une espèce de flat tax ou c'est plus intéressant ?
Tout à fait. Donc ça dépend en effet des différentes solutions proposées, enfin des différents types de versements. Et donc notamment la grande nouveauté maintenant, c'est la possibilité de faire des versements volontaires déductibles et donc de pouvoir déduire finalement de l'assiette de l'impôt sur son revenu des versements volontaires qui sont faits dans un PER, quel qu'il soit. Et donc c'est un choix qui était laissé à la disposition de chacun de choisir la déductibilité ou de contraire de ne pas la choisir. Et donc ça, c'est vraiment une évolution importante qui apporte beaucoup de souplesse et un avantage certain pour les pour les salariés. Alors, en fonction de la situation de chacun, évidemment, ça peut être intéressant ou être moins intéressant, mais c'est quand même une possibilité supplémentaire.
Tout à fait. Alors, on a vu donc ces différentes solutions. Carole, vous voulez compléter ?
Effectivement, donc il y a, comme vient de l'expliquer Philippe, cette déductibilité des versements volontaires qui est possible, qui était d'ailleurs commune et anciennement utilisée pour l'article 83 et le PERP, oui. Et qui vient finalement nourrir, on va dire, désormais tous les versements volontaires faits aux pairs d'entreprise et pairs individuels également.
Avec une sacrée différence, c'est la sortie en rente, si je ne m'abuse. Qui était dans les anciens dispositifs quasi obligatoires. Et on a vu que le succès du plan d'épargne retraite qui vient d'être lancé, il est aussi, grâce à ce succès, il est fait grâce à cette sortie qui peut être en rente ou en capital.
Alors vous avez tout à fait raison. Comme je l'expliquais tout à l'heure, les dispositifs de retraite sont constitués de deux phases, la phase de constitution de l'épargne et la phase de restitution. Et dans le cadre de nos offres, et grâce justement au partenariat aussi avec Crédit Agricole Assurance, eh bien, nous pouvons proposer à la fois une rente viagère, donc vraiment dans la règle et la technique assurantielle, et puis bien sûr la rente, comme on dit, financière au regard des sorties en capital qui peuvent être fractionnées. Mais ça, bien évidemment, ces modalités de sortie sont définies dans chacun des plans d'épargne retraite, et notamment quand il s'agit d'un pair obligatoire ou d'un pair unique, le compartiment dédié aux cotisations obligatoires justement ne peut sortir en principe qu'en rente viagère. Et là, bien sûr, on propose tout un panel de rentes viagères en fonction de la situation personnelle ou familiale du futur rentier. J'insiste aussi sur le fait que, finalement, ce n'est pas parce que le salarié va atteindre l'âge légal de départ en retraite ou a liquidé préalablement sa retraite de base qu'elle doit, la personne, systématiquement liquider son plan d'épargne retraite. Au contraire, on peut l'utiliser vraiment de façon très, dans une approche, on va dire, patrimoniale, qui va permettre de différer éventuellement le moment où elle va liquider son plan d'épargne retraite de façon ou partielle ou totale en fonction de ses intérêts.
Très bien. Alors, on a vu les dispositifs de retraite, on a vu effectivement les catégories qui sont concernées, on a vu que les entreprises, tout type d'entreprises, peuvent bénéficier de ces dispositifs. Une fois que ça a été mis en place, Philippe, on s'intéresse à la gestion financière. Alors, quelle gestion financière mettre en œuvre ? On sait que c'est là où le bât blesse. Alors, les salariés qui bénéficient des dispositifs, ils sont souvent assez, j'allais dire, timorés dans leur choix d'épargne. Alors, vous l'avez dit déjà, ils font confiance. Vous nous avez donné le chiffre à plus de 80% aux gestionnaires. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même des outils d'optimisation de cette gestion financière. Voilà, une fois qu'on a constituer, j'allais dire, son bas de laine au fil des années, que ça progresse gentiment, et puis ça dépend de l'abondement, ça peut être des sommes assez considérables au fil du temps. Comment est-ce qu'on gère ça ? Sur quel support ? Quelles sont les solutions d'accompagnement que vous allez proposer chez Amundi ?
Alors c'est en effet un sujet important dans le cadre de cette loi Pacte et dans le cadre de la mise en place de ces PER, de ces plans d'épargne retraite. C'est en effet le fait de répondre à la problématique préexistante qui était que souvent les salariés en fait s'investissaient plutôt en fonds monétaires, en produits extrêmement prudents, ce qui est évidemment une aberration sur un horizon de long terme, notamment compte tenu des taux courts actuellement qui sont négatifs. Et donc, c'est vraiment une nouveauté de la loi Pacte de prévoir en fait d'abord l'obligation de mettre en place une gestion pilotée parmi les solutions de gestion proposées, et puis de prévoir que par défaut, ce sera la grille équilibre de cette gestion pilotée qui sera retenue de façon obligatoire. Et donc le gros avantage de ces gestions pilotées, c'est d'avoir une gestion qui est vraiment, comme son nom l'indique, pilotée en fonction de l'objectif de la maturité du placement du salarié. Donc là, en l'occurrence, c'est l'âge de départ en retraite. Et donc, en fait, on a une gestion qui est diversifiée entre actions, obligations et produits plus prudents et qui se désensibilise progressivement quand on approche de l'âge de la retraite à partir de environ 10-12 ans avant le départ en retraite. Et l'avantage, c'est d'avoir une solution qui s'adapte vraiment aux besoins des salariés qui sont soit pas avertis des marchés financiers, soit pas à l'aise avec ce sujet, soit qui n'ont pas envie de s'en occuper. Donc le gros avantage, en fait, c'est qu'on a une gestion qui est vraiment une gestion adaptée à un horizon de moyen et long terme, qui est l'horizon de la retraite, et avec des solutions que nous avons essayé au niveau d'Amundi d'améliorer en diversifiant encore plus en fait les placements que ce qui est prévu dans la réglementation, puisqu'on a, au-delà des actions cotées, des obligations cotées, on prévoit aussi des matières premières, on prévoit de l'immobilier, de façon à vraiment avoir une belle diversification au sein de ce portefeuille et du coup de réduire le niveau de risque en maximisant le niveau de performance sur ces solutions. Donc ça, c'est vraiment la solution, c'est vraiment la grande nouveauté de la loi Pacte. Et ces solutions sont vraiment très efficaces et on voit qu'elles sont plébiscitées puisqu'elles sont utilisées de façon très importante par les salariés à plus de 50%. Et on s'oriente vraiment vers ce qu'on peut observer dans tous les pays d'Europe du Nord et dans les pays et aux États-Unis où en fait ces gestions pilotées représentent en général plus de 80% des avoirs investis dans les dispositifs de retraite. Donc on est vraiment dans sur un produit qui est vraiment adapté à ce type de placement. Alors après, pour les salariés,
donc
qui
solution
sont un
peu par
plus
défaut, avertis, on excusez-moi Philippe, donc je résume, hein, solution par défaut, donc gestion pilotée. Et c'est vrai qu'on est souvent étonné dans ces mécanismes parce qu'il y a un foisonnement évidemment de choix et on sait que parfois le choix est un peu pétrifiant pour les gens. C'est vrai que plus on a de fonds et comme ça, quand on n'y connaît pas grand-chose, on dit mais qu'est-ce que c'est ? Et on a tendance à ne rien faire. Donc là, au moins la gestion pilotée, on explique, c'est un gestionnaire derrière qui va choisir en fonction et faire une allocation spécifique.
Voilà, tout à fait. Donc, c'est une allocation qui est vraiment adaptée à l'horizon retraite, qui est la solution par défaut. Donc, c'est assez facile pour le salarié de s'orienter vers cette solution avec des performances et avec un niveau de risque qui est tout à fait adapté à l'horizon retraite. Alors après, pour les salariés qui sont un peu plus avertis ou qui ont envie en fait de gérer leurs avoirs, on a toujours une solution, ce qu'on appelle la gestion libre, où le salarié a la possibilité de faire sa propre allocation comme il le souhaite. Et puis, on a une petite solution intermédiaire qui est alors c'est pas une petite solution, c'est une solution intermédiaire qui est le Robot Advisor, qui est une solution qui permet en fait aux salariés d'être accompagné en fonction de ses objectifs. Il définit dans le robot finalement quel est le niveau de risque qu'il souhaite retenir, quelle est sa maturité de placement, il choisit différents critères et on lui propose en fait une allocation en fonction de ces critères qu'il peut ou non retenir. Et s'il retient en fait d'utiliser le Robot Advisor pour faire ses investissements, à ce moment-là, on l'accompagne dans le temps pour faire évoluer au fil du temps ses investissements. Et c'est une solution qui a beaucoup de succès puisqu'en fait on en est à près de 400 000 en fait épargnants utilisant cette solution-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui plaît bien et qui permet aussi finalement à ceux qui sont pas forcément à l'aise avec les marchés financiers, mais qui souhaitent s'y intéresser, qui souhaitent mieux comprendre, d'être accompagnés dans cette logique.
Ouais. Une précision, Philippe, justement, sur ce Robot Advisor. C'est vrai qu'on entend robot et finance, on pense tout de suite aux algorithmes de trading, à des choses qui vont faire du haut de fréquence, etc. Là, il ne s'agit pas de ça. Hein. C'est surtout un outil d'allocation qui va vous guider dans ce qui vous convient le mieux en fonction de tout ce qui a été pré-rempli et de l'expérience que vous avez en tant que gestionnaire.
Voilà, tout à fait. Et pour construire cet outil, on a travaillé en fait sous le contrôle de l'AMF, de façon à être certain que la solution qui soit mise en œuvre soit conforme, bien entendu, mais soit aussi éthiquement responsable par rapport à ce que l'on peut proposer à des salariés dans le cadre d'une solution retraite.
Ouais. Si on soulève le capot, qu'est-ce qu'on va trouver en termes de fonds ? On va avoir vraiment toutes les solutions sur toutes les zones géographiques, sur différents types, actions, obligations, jusqu'au plus compliqué, ou vous cantonnez à quelque chose de standard, j'allais dire ?
Alors, on n'est vraiment pas sur du standard, puisqu'en fait, la logique est vraiment de se positionner sur des actions cotées et des obligations cotées de façon assez classique sur toutes les zones géographiques. Mais d'être aussi sur des actions non cotées, d'être aussi sur des entreprises, des actions d'entreprises de petite et moyenne taille. Donc ça, c'est une obligation de la loi Pacte de prévoir un investissement en PME et TPE. Mais donc c'est vraiment une opportunité pour diversifier le risque. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on utilise aussi des matières premières, de l'or, de l'immobilier pour diversifier et donc du coup réduire le risque de ces placements.
Voilà, la diversification, c'est la clé aujourd'hui. On l'a vu, notamment une petite crise aussi financière, en tout cas un à-coup sur les marchés, c'était en mars 2020, évidemment, au début de la pandémie, un stress qui s'est fait sur les marchés et tout a chuté. Alors, pas tout, évidemment, il y avait les valeurs refuge, donc l'or, l'immobilier qui a bien tenu. Donc l'idée, c'est aussi, grâce à ces mécanismes, grâce à ces dispositifs, finalement, de bien diversifier son épargne, même si c'est de l'épargne retraite, Carole.
Effectivement, je voulais rajouter un élément concernant justement cette gestion financière qui est clé en matière de retraite supplémentaire, c'est de voir que l'on peut justement travailler la convergence des supports de placement proposés, tant sur la partie plan d'épargne à 5 ans et justement la partie retraite. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui est extrêmement recherché par les entreprises. Elles veulent vraiment rendre le dispositif le plus lisible possible pour leurs salariés. Et cette harmonisation, finalement, de la gamme proposée est importante. J'ajoute également, et ça, effectivement, Philippe l'a souligné, mais c'est important de rappeler que Amundi est bien évidemment le leader en épargne salariale et retraite, numéro un en gestion d'actifs au niveau européen, et vraiment leader également pour tout ce qui est constitution de grilles de gestion pilotées. Nous, FCPE, d'ailleurs, on a toute une gamme également labellisée par le CIES, donc le comité intersyndical.
Donc les fonds communs de placement en entreprise.
Exactement. Donc ça, c'est le cœur même des supports financiers que nous proposons. Et ça fait le lien avec ce qu'on a pu noter et observer ces derniers temps, c'est le rôle des partenaires sociaux qui s'est renforcé justement avec la crise sanitaire. Et voilà, on a cette gouvernance qui peut être renforcée par justement au travers aussi des fonds qui sont proposés dans les plans d'épargne retraite.
Le rôle des partenaires sociaux, effectivement. Alors justement, ces partenaires sociaux, c'est la voix évidemment des salariés. Et ces salariés, c'est des hommes, des femmes, comme vous et moi. Et les épargnants français, on le sait, sont de plus en plus sensibles aux problématiques ESG, tout ce qui est la finance responsable, la finance durable. Est-ce que, justement, vous proposez aussi, votre gamme est adaptée à ces nouveaux choix d'épargne?
Alors déjà, Amundi est vraiment pionnier, j'allais dire, de tout ce qui est investissement socialement responsable. Donc déjà, les fonds que nous proposons dans le cadre des dispositifs retraite sont vraiment s'inscrivent totalement dans ce cadre et on va dire les réflexions qui peuvent survenir justement lors de la mise en place ou de la transformation de dispositifs de retraite existants, c'est l'évolution éventuelle des supports de placement proposés. Derrière, on a pu constater, et les enquêtes conduites récemment l'ont démontré également, l'épargnant recherche du sens, tout simplement, à ce que son épargne reflète. À la fois, elle doit refléter ses propres valeurs en tant qu'épargnant, mais également les valeurs de l'entreprise. Vraiment, on s'inscrit tout à fait dans cet accompagnement de la gestion financière qui va justement complètement coïncider avec ce que recherche évidemment l'entreprise dans les messages finalement.
Bien sûr.
L'argent a du sens et le sens, c'est aussi la direction que l'on assigne à ses placements et c'est aussi les valeurs qu'on veut leur assigner.
Et promouvoir, évidemment. Alors, l'entreprise elle-même n'est pas hors sol, évidemment, elle est aussi, pour même certaines entreprises à mission. Philippe Cerceau, est-ce qu'il y a des entreprises qui viennent vous voir, justement, pour créer des fonds dédiés d'entreprises? On en parlait un petit peu tout à l'heure avec les FCPE, et qui ont cette exigence, justement, pour vous dire, nous, on est peut-être dans des dynamiques, on est peut-être dans une industrie non polluante, où on a envie, évidemment, d'avoir cette estampille ESR, ESG. Est-ce que vous les accompagnez sur cette dimension?
Alors tout à fait, on peut accompagner en effet les entreprises et on le fait, on l'a fait à de nombreuses reprises pour les accompagner, pour créer en fait des véhicules, des fonds dédiés, des véhicules de placement qui respectent ces critères ESG, qui soient dans cette logique ISR, mais qui intègrent plus particulièrement des critères qui sont propres à une charte ESG de l'entreprise ou à une culture d'entreprise. Et donc, on peut tout à fait, en fait, adapter, en fait, les process de façon à plus particulièrement mettre en avant parmi ces critères ESG ceux qui sont les plus parlants, les plus porteurs et les plus mis en avant au sein de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose qui peut être étudié, en effet, et qui est mis en place pour certains groupes. Oui, tout à fait.
Parfait. Carole.
Peut-être pour compléter, peut-être quelques chiffres en fait, par rapport à l'enquête récente sur le sujet. En fait, parmi les 3000 épargnants interrogés, 49% ont indiqué qu'ils privilégiaient les supports d'investissement responsables. Et parmi les critères, en fait, parmi les thématiques en fait retenues, la lutte contre le réchauffement était privilégiée par nombre d'entre eux, et notamment 71% chez les moins de 35 ans. Donc on voit que le sujet est vraiment un sujet d'actualité.
Exactement. Et puis, on a vu aussi quelque chose de nouveau. Hein. C'est vrai que c'est très en vogue, cette finance durable, finance responsable depuis quelques années chez les institutionnels, c'est-à-dire les mastodontes de la finance. On a vu aussi que depuis un an et depuis cette crise, on s'est rendu compte que c'était pas fait au détriment de la performance. C'est très important pour les épargnants de se dire, avant, on avait une espèce d'arbitrage. Bon, OK, j'ai un placement plus vert ou plus responsable, mais c'est au détriment de la performance. On a vu qu'au contraire, dans cette crise, ça a mis en lumière le fait que c'est tout aussi performant, voire plus performant dans la durée, ce type de placement. Philippe, vous voulez nous répondre là-dessus ?
Oui, tout à fait. Ben, c'est clair que toutes les études que l'on peut faire sur le sujet montrent que sur le moyen terme, les entreprises, l'évolution de la valeur des actions des entreprises qui respectent ces critères socialement responsables, ces critères ESG, ces performances sont meilleures sur le moyen terme, c'est clair.
Très bien. Une question alors pratique, bien sûr. On a parlé de ces dispositifs, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de tout ce que vous pouviez faire, en tout cas chez Amundi, pour la gestion financière, pour le packaging, le robot advisor, etc. etc. Une question très simple, combien ça coûte ? On rentre dans des questions qui fâchent. Le vif du sujet, comment se déroule l'accompagnement pratiquement ? Voilà, pour ceux qui nous écoutent, qui veulent franchir le pas, on parlera aussi des délais également, mais tout d'abord, cette question du coup, qu'est-ce que ça représente pour l'entreprise, Philippe Cerceau ?
Alors, pour l'entreprise, tout dépend un petit peu du dispositif. En fait, tout dépend si on est dans un percol, un perro, un perru. En fait, les frais, ce qu'on peut dire, en fait, c'est que les frais supportés par l'entreprise portent essentiellement sur la partie frais de tenue de compte, donc qui sont des frais quand même relativement réduits. La plupart du temps, les frais liés aux investissements liés aux fonds communs de placement d'entreprise qui sont proposés sont à la charge des fonds. Donc, les performances qui sont présentées sont des performances nettes. Mmh. Et donc, bon, de fait, c'est à la charge des salariés, mais les performances présentées étant nettes, c'est un petit peu neutre. Et on est de toute façon sur des frais qui sont extrêmement réduits par rapport à ce que l'on peut trouver par ailleurs dans des réseaux grand public, puisqu'on est vraiment sur des produits collectifs d'entreprise dans lesquels en fait les tarifications proposées sont très modérées par rapport à ce qu'on peut observer quand on souscrit un contrat par ailleurs en tant que particulier. Donc je pense qu'à la fois pour le salarié et à la fois pour l'entreprise, on est sur des systèmes qui sont in fine très peu coûteux. Mmh. Et puis l'accompagnement, en fait, c'est quelque chose qui est fait habituellement sans frais, sauf s'il y a des demandes particulières. Mais on est vraiment là pour accompagner les entreprises et on n'est pas là pour se rémunérer sur cette partie accompagnement.
Carole, une petite question là sur l'accompagnement d'actu depuis un an. Comment ça se passe, puisque c'est vrai que il y avait une mise à distance. Alors on a vu que certaines professions s'en étaient bien accommodées. Est-ce que ça a été le cas en épargne salariale ? Est-ce que ça a gelé finalement la mise en place de ces dispositifs ou ça l'a accéléré ?
Alors pas du tout. C'est dans le sens où on est resté sur des entreprises qui sont restées mobilisées sur le sujet de la retraite. Et notamment pour transformer leurs dispositifs existants, notamment les transformations PERCO en PERCOL. en père collectif doivent intervenir idéalement avant la fin 2022, tout simplement pour permettre aux salariés de conserver, on va dire, l'historique de ce qu'on appelle les taux de prélèvements sociaux lorsque le PERCO, par exemple, a été mis en place avant 2018. Donc voilà, c'est l'une des raisons. Bien sûr, il y en a d'autres, dont les évolutions et à la baisse du forfait social. Mais pour autant, voilà, on est à travailler beaucoup sur les transformations de PERCO en PERCOL et puis, bien sûr, les transformations d'article 83 en PER obligatoire.
Et pour faire suite à ma question, du coup, on peut continuer à faire ça, à mettre en place tout ça à distance, sans échange physique, on va dire ?
Alors, tout à fait. Nous, on travaille vraiment, j'allais dire, vraiment comme un consultant, mais interne. C'est-à-dire qu'on va auditer, en fait, les dispositifs de l'entreprise ou du groupe. C'est-à-dire vraiment travailler le régime, comment l'avenanter pour le mettre en conformité avec la loi PACTE. Regarder, là, au niveau, on va dire, plus des calculs, un éventuel élargissement des collèges bénéficiaires lorsqu'il s'agit d'un dispositif catégoriel. Voilà, donc il y a toute cette étude, recenser les prestations qui, voilà, dont bénéficie l'entreprise à ce jour et voir éventuellement comment faire évoluer, bien sûr, dans le meilleur sens possible, au bénéfice des salariés. Mmh. Et cet accompagnement, évidemment, ça c'est la première phase, c'est la phase, on va dire, d'audit, de conseil. Et une fois que l'entreprise vraiment s'est positionnée voilà, suite à nos conseils, eh bien, il y a après tout l'accompagnement pour le déploiement, à la fois sur le plan juridique, sur le plan financier, et puis le cœur qui est la communication qui va être réalisée auprès des salariés pour faire vivre et déployer le mieux possible ce dispositif. Le rendre vivant, en fait, c'est très important. Et oui. À ce titre, justement, eh bien, grâce à notre service marketing, eh bien, on a mis au point ce qu'on appelle des livrets d'informations transversaux, c'est-à-dire que le salarié va pouvoir retrouver l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale et de retraite dont il peut bénéficier dans l'entreprise, puisque, comme on l'a vu, finalement, ces dispositifs, que ce soit plan d'épargne à 5 ans, PER collectif et PER obligatoire, peuvent évidemment s'imbriquer. Hein. Donc, il n'y a pas de dispositif l'un et ou l'autre, ça peut être les deux. Tout dépend justement de la stratégie que l'entreprise veut adapter. L'élément également clé dans cette communication, au-delà des livrets d'informations, bien évidemment, c'est la qualité du portail Internet. Et grâce justement au partenariat qui a été noué entre Amundi et Crédit Agricole Assurance, nous disposons d'une plateforme de gestion multimodale et unique sur le marché, puisque nos systèmes d'information sont totalement intégrés et permettent de gérer les plans d'épargne retraite tant dans un environnement compte-titres et dans un environnement assurantiel. On a, si vous voulez, associé nos deux forces, hein, bien sûr, gestionnaire d'actifs, teneur de compte, et puis, bien sûr, assureur, puisqu'on est les deux leaders, quand même, sur le marché. Donc, c'est extrêmement important par rapport à des dispositifs de long terme. Ces derniers ont besoin d'être robustes et surtout durables. Voilà, sur,
et j'allais ajouter
sur
quelque
de
chose,
grandes
quelque
périodes,
chose de...
c'est important de faire confiance, voilà, à des acteurs référents sur ce sujet.
Bon, le meilleur des deux mondes, évidemment, avec Amundi. Et surtout, je rajoute, sur une seule et même plateforme, ça c'est aussi un exploit, ça paraît simple quand on voit la plateforme qui est live et qui existe pour faire ses arbitrages, pour surveiller aussi, regarder son épargne. Mais c'est vrai que c'est très complexe et on a besoin aussi d'être assuré de temps en temps de voir où ça en est. Philippe Cerceau, pour continuer sur le sujet justement de l'éducation, de la pédagogie, on a, quand on vous entend les uns et les autres, évidemment, on se dit que c'est vraiment des superbes dispositifs positif que toutes les entreprises, grandes, petites, moyennes, on devrait le faire et devrait accélérer sur ce sujet. Et pourtant, on a encore des freins. On dit que c'est complexe, on dit qu'on n'a pas le temps. J'imagine que ceux qui nous écoutent aussi, on les remercie. On leur dit d'ailleurs qu'ils peuvent participer et nous envoyer leurs questions s'ils en ont. Ils sont comme tout le monde, hein. Ils sont débordés, il y a beaucoup de choses. Puis en plus, affronter en ce moment une crise économique pas évident. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quelles sont les objections à cette mise en place de ces différents plans et dispositifs d'épargne retraite, d'épargne salariale?
Alors, il n'y a pas tant d'objections que ça. En fait, c'est souvent plutôt une problématique de temps à consacrer, puisque même si les choses se sont simplifiées, même si donc, comme on le disait, on peut accompagner les entreprises en fait dans cette démarche, et il faut quand même disposer d'un minimum de temps pour travailler sur le sujet. Et souvent, c'est plutôt une priorité finalement sur les sujets. Et on sent bien que la retraite fait partie des priorités, mais parfois, dans certains contextes d'entreprise, il y a d'autres sujets qui passent un peu avant pour l'instant. Mais je pense que c'est ça finalement l'argument souvent mis en avant. Et donc, nous, on est là évidemment pour dès que le sujet est mûr, pour pouvoir accompagner et aider nos interlocuteurs sur ce sujet.
Bien sûr. On a parlé de la mise en place également. J'espère que les téléphones, les emails vont chauffer du côté d'Amundi après cette conférence. En tout cas, quels sont les délais, la pratique? Si on est chef d'entreprise ou responsable des ressources humaines et on veut on se dit, allez, je passe à l'action. Si on se décide, au mois de juin, quand est-ce qu'on peut mettre ça en place? C'est en jour, c'est en mois, c'est en plus, en semaine? Carole.
Par rapport à des réflexions qui sont déjà un peu mûres, on peut bien évidemment mettre en place un nouveau dispositif d'ici la fin de l'année. Donc il y a évidemment certains délais à respecter quand il s'agit de transformer un dispositif existant, mais pour les mises en place, il n'y a pas de réelles contraintes, donc on peut aller assez vite. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de l'accompagnement qu'on propose, c'est de vraiment permettre à l'entreprise d'aller plus vite dans la compréhension du champ des possibles et de l'aider à augmenter et aller plus vite dans sa réflexion.
Voilà, donc accompagnement, ça va commencer par un audit, hein, c'est ça comme vous disiez, des solutions qui sont déjà installées, qui sont en place, peut-être celles qui sont à abandonner ou à fermer ou à transformer, et puis mettre en place les nouveaux dispositifs quand c'est possible.
Exactement.
Philippe.
Alors ce que je voudrais peut-être ajouter, c'est qu'en effet, tout dépend un petit peu des situations des entreprises. Quand on est dans un grand groupe, dans les grands groupes et dans les grandes entreprises, en général, il y a déjà des dispositifs préexistants. Et donc, ça prend un petit peu plus de temps pour étudier l'existant, pour voir comment faire évoluer. Et donc, il faut plusieurs mois pour aboutir. Il faut 3-4 mois peut-être. Par contre, dans une entreprise de taille plus petite qui met en place un nouveau dispositif où les questions sont peut-être moins... il y a moins de questions sur l'historique. Là, ça peut se mettre en place très, très, très vite. Hein. Donc, en fonction du contexte, évidemment, le temps de mise en œuvre est plus ou moins long.
D'accord. Comment on vous contacte en général, j'imagine que c'est très différent si, en fonction d'un grand groupe ou d'une moyenne entreprise, mais déjà avec plusieurs centaines de salariés, et puis d'une très petite entreprise. Est-ce qu'il y a des niveaux d'accession, d'accessibilité? Est-ce qu'on peut le faire en direct en vous contactant? Parce que Amundi n'est pas forcément sur la place publique. Le réflexe des chefs d'entreprise dans les petites entreprises, c'est souvent son banquier. Comment ça se passe dans ces cas-là, Philippe?
Alors, en fait, donc, je crois que notre adresse mail va être indiquée donc à la fin de cette présentation. Donc, vous pouvez toujours nous contacter en direct. Il n'y a pas de sujet. Hein. On peut répondre en direct. Mais c'est vrai qu'on on travaille à la fois avec différentes équipes commerciales au sein d'Amundi et avec aussi des réseaux bancaires, puisque en fait le groupe Amundi se situe au sein du groupe Crédit Agricole avec différents réseaux avec lesquels nous travaillons, et donc tous ces contacts peuvent remonter par ces différents réseaux, mais vous pouvez toujours nous appeler en direct et donc utiliser l'adresse mail qui sera indiquée à la fin de cette présentation.
D'accord, on va le resituer effectivement tout à l'heure. Il nous reste quelques minutes, alors pour l'instant on n'a pas encore de questions, n'hésitez pas à les poser. En tout cas moi j'en ai quelques-unes. C'est toujours pareil sur les dispositifs, les différents dispositifs, et ensuite comment on va arbitrer entrée, c'est-à-dire dans la vie du contrat. On a des questions souvent qui reviennent, c'est sur qu'est-ce qui se passe si on change d'entreprise. Carole Fargeau, on sait que c'est une question des salariés, c'est-à-dire bah tiens, j'étais pendant 10 ans chez un tel, puis je vais chez le concurrent. À ce moment-là, ça casse le plan, ça l'arrête, ou est-ce qu'on peut le transférer? Parce qu'il y avait ces histoires dans la loi Pacte aussi de favoriser la transférabilité.
Vous avez tout à fait raison, et ça c'est un élément vraiment clé de la réforme de la loi Pacte, c'est la portabilité. C'est-à-dire que le salarié, dès lors qu'il quitte son entreprise, va pouvoir soit laisser le dispositif tel qu'il existe et continuera à être géré, bien sûr. Simplement, il y a des frais qui peuvent être mis à sa charge dans le cadre de cette sortie de l'entreprise. Donc, le salarié, quelque part, a tout intérêt, effectivement, à transférer ses encours sur un nouveau pair dont il peut bénéficier dans sa nouvelle entreprise.
Donc, c'est possible
et c'est possible et c'est même, on va dire, réalisé très facilement. Donc, je reviens sur notre portail internet transactionnel qui permet d'initier vraiment de très nombreuses opérations, y compris via son mobile. Voilà, on a un espace vraiment dédié pour enregistrer les demandes de transfert individuel en provenance d'anciens contrats d'assurance, d'anciens contrats retraite. Voilà, c'est vraiment très large puisque ça concerne tant les dispositifs anciens individuels que des anciens dispositifs collectifs. L'intérêt derrière, c'est de permettre justement aux salariés de tout rapatrier au même endroit, d'éviter finalement d'avoir des visions fractionnées de son épargne retraite. Au moins, il a un seul plan, ou deux, ou trois, mais en tout cas, qui sont gérés par le même acteur. Et c'est beaucoup plus, évidemment, performant.
Une autre question, c'est ce que vous avez. Alors, tout de suite, je donne l'adresse. Tiens, paulconseilretraite@amundi.com qui est en train de s'afficher. paulconseilretraite en un mot, @amundi.com. Donc, n'hésitez pas, si vous avez déjà des projets en cours et que vous êtes en train de procrastiner en se disant, voilà, je vais le faire demain, je m'y mets. N'hésitez pas à envoyer un petit mail, déjà, vous serez rappelé et mis sur la voie. Carole, une autre question, on en a parlé tout à l'heure un petit peu, c'est une fois la retraite, que se passe-t-il? On a eu cette phase, d'activité, on a mis de côté. Et puis, une fois qu'on est à la retraite, on l'a évoqué tout à l'heure, on va sortir, alors soit en rente, soit il y a d'autres options possibles. Est-ce qu'on peut les détailler? Est-ce qu'on peut avoir, la rente, ça c'était avant. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir quelque part le magot, ce qu'on a amassé? On a aussi des dispositifs de sortie, on en reparlera. Mais déjà, sur cette sortie personne à la retraite, ça y est, je suis à la retraite, est-ce que je peux disposer de toute mon épargne?
Alors, effectivement, comme je l'indiquais tout à l'heure, en fait, le terme de ces dispositifs de retraite, c'est par définition la retraite. Autrement dit, ce n'est que lorsque le salarié a soit atteint l'âge légal, soit liquidé préalablement sa retraite dans un régime de base, qu'il va pouvoir finalement demander la liquidation totale ou partielle de son plan d'épargne retraite. Alors, cette demande, cette sortie possible, finalement, il y a deux, trois modes, on va dire. Principalement, les sorties en capital, qui peuvent être totales ou fractionnées, ou encore les rentes viagères. Mais là, on va dire que ça dépend aussi du plan qui a été souscrit et surtout de l'alimentation des compartiments qui sont dédiés au plan d'épargne retraite. Vous avez trois compartiments. Un compartiment dédié au versement volontaire qui, là, peut permettre une sortie en rente ou en capital au moment de la retraite. Vous avez le compartiment épargne salariale où vous avez là encore la possibilité de sortir en capital ou en rente. Et enfin, le compartiment dédié aux cotisations obligatoires qui, là, ne peut sortir qu'en rente viagère, modulo une exception qui concerne, on va dire, un montant trop faible de rente viagère qui serait servie. Donc, le salarié, finalement, doit être également accompagné sur cette phase importante de restitution de son épargne retraite. Et nous avons, justement, la possibilité de proposer ces différentes modalités de sortie, y compris un panel de rente très riche en lien avec Crédit Agricole Assurance qui est donc l'assureur groupe, de façon à pouvoir proposer à la fois des rentes de réversion, des rentes avec annuité garantie, des rentes à vocation dépendance. Enfin, ouais. Voilà, on a un certain nombre de rentes qui vient répondre à toutes, on va dire, les situations familiales et personnelles.
Et oui, bon, évidemment, il n'y a pas une solution unique. Philippe Cerceau, est-ce que vous proposez aussi une sorte de bilan retraite avant l'heure? Est-ce qu'on peut faire des simulations, justement, alors qu'on est toujours en activité?
Ah ben tout à fait, oui. On a en effet ce qu'on appelle le bilan retraite individuel, donc qui permet en fait à chaque salarié de faire son bilan, hein, de pouvoir faire des simulations sur le niveau de retraite qu'il peut espérer. Donc ce bilan retraite peut être utilisé, ce simulateur peut être utilisé assez tôt, hein, pour pouvoir justement se poser la question de savoir en fait est-ce qu'il faut que je combien il faudrait que j'investisse pour pouvoir augmenter ce niveau de retraite. Et ce simulateur intègre à la fois les différents versements qui ont pu être faits dans le cadre de l'épargne salariale et retraite, mais également il est possible en fait pour le salarié d'y intégrer les informations liées au pilier 1, donc tout ce qui est AGIRC et régime de base, donc pour avoir une vision la plus fine possible finalement de ces informations. Et puis au-delà de ces simulateurs, il y a différents services qui sont proposés, dont le service le plus important, qui est la possibilité d'être en contact avec un conseiller, donc via un prestataire qui s'appelle Sapiendo, et qui permet de faire un bilan personnalisé en fait pour le salarié avec cette entreprise.
Parfait. J'ai une dernière question, on va faire très rapide, Philippe. C'est, vous avez parlé bien sûr du dispositif de gestion pilotée, qui est le dispositif par défaut, du robot advisor, voilà, pour être conseillé, alors pas par un robot, mais par une aide, on va dire, à intelligence artificielle. Et puis si on est plus avancé, on l'a pas dit, mais on peut aussi faire sa propre allocation si on a des convictions de marché et si on décide de prendre son épargne en main.
Tout à fait. Donc ça, c'est la troisième solution qui s'adresse en fait aux salariés avertis et qui sont peut-être pas si avertis que ça, mais qui souhaitent en fait s'en occuper, qui souhaitent se gérer en fait leurs avoirs directement. Et donc ça, c'est en effet une solution qui est tout à fait qui est proposée et qui est utilisée donc par une petite proportion de salariés, mais qui est néanmoins utilisée. Et puis le salarié, il a aussi la possibilité de panacher, hein, de dire je mets une partie, mettons 50% par exemple dans la gestion pilotée, et puis je vais m'occuper de l'allocation des 50% restants dans la gestion ligne. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Et puis par ailleurs, on met en place en fait des solutions de formation en fait auprès des salariés, qui peuvent être donc mis en place par l'entreprise, soit de la formation en présentiel, soit de la formation via un MOOC, qui permet en fait aux salariés de mieux comprendre en fait finalement les mécanismes d'investissement et de se sentir plus à l'aise en fait avec cette possibilité qu'il a de faire sa propre allocation.
Ouais. Alors donc le MOOC, hein, Philippe, je traduis pour ceux, bon, c'est connu, mais MOOC, c'est l'enseignement à distance, hein, Massive, voilà. Online Courses, en bon français, c'est-à-dire des cours qu'on va suivre du e-learning finalement à distance. Bon, voilà. On a pris un petit peu l'habitude. Ça, c'est aussi intégré, c'est ça, dans votre solution dès lors qu'on adhère à vos dispositifs?
Alors, c'est pas intégré, c'est une solution qui peut être ajoutée, en effet, puisqu'on a en fait un organisme de formation homologué au sein d'Amundi, spécialisé sur ces sujets. Et donc, en général, le MOOC, il est utilisé dans des groupes pour un nombre de salariés important, et qui permet en fait sur une période donnée de suivre des cours en ligne, avec une méthode extrêmement participative, et qui permet en fait avec des travaux à la maison, et puis avec des points de passage de suivre, et tout en étant en fait accompagné dans cette approche de formation et de découverte, alors des marchés financiers, des grands principes d'investissement, et comment après lire des reportings financiers et trouver en fait la bonne information que l'on cherche. Donc c'est tout cet apprentissage qui peut être fait soit en présentiel, soit à distance en petits groupes, mais soit aussi via ce MOOC via ce MOOC, en effet.
Voilà, le MOOC, pour ceux qui ne veulent pas bouger de chez eux, qui sont bien, même s'il y en a qui préfèrent maintenant, qui préféraient peut-être ressortir un petit peu. Carole, vous souriez. Juste une dernière question, on voit un pédagogie, enseignement, vraiment, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui voilà, le nerf de la guerre hein, pour diffuser, en fait, ce mouvement d'épargne qui doit se faire pour préparer, pour anticiper au maximum.
Tout à fait. Ben, l'entreprise, quand elle justement met en place un tel dispositif de retraite ou fait tout simplement évoluer son dispositif existant, c'est l'occasion pour elle vraiment de faire une grande communication déjà par rapport à ses valeurs, par rapport justement au fait qu'elle prend soin finalement de ses salariés. Et donc vraiment, il faut que cette étape de communication soit la plus réussie possible, hein, puisque le lancement, c'est important, mais après, un accompagnement que l'on propose se fait également tout au long de la vie du dispositif. Hein, donc certes, il y a la communication, on va dire, clé au moment du lancement, mais après, tout au long, au travers notamment de comités, d'animations. Donc, on est là, évidemment, pour faire vivre ce dispositif de long terme, dont je disais tout à l'heure qu'il est important de le confier. Derrière, voilà, il y a quand même une épargne retraite en augmentation. C'est de l'argent et c'est important de le confier à des personnes, voilà, en tout cas des entités robustes, qui sont vraiment expertes sur le sujet.
Et pourquoi pas au numéro 1, évidemment, Amundi, épargne salariale et retraite. En tout cas, on l'a vu, les solutions pour retraite, pour votre politique RH, elles existent. Donc, c'est facile à mettre en œuvre, ça ne prend pas trop de temps, ce n'est pas trop cher, ça fidélise les collaborateurs et même c'est un facteur d'attractivité. Donc, il n'y a plus qu'à, on va remettre l'adresse pour vous contacter. Les équipes d'Amundi sont à votre disposition. paulconseilretraite@amundi.com. Donc c'est tout attaché, hein, Paul Conseil Retraite @amundi.com. Vous serez entre deux bonnes mains. En tout cas, un grand merci à nos deux spécialistes du jour. Philippe Cerceau, responsable du pôle Conseil, expertise et développement retraite d'Amundi. Merci Philippe.
Merci.
Merci également à Carole Farger, c'est très clair, responsable adjointe du pôle Conseil Expertise et Développement Retraite. Toujours merci chez Amundi, un grand merci à Sonia Cobella et à ses équipes qui ont préparé ce webinaire. Merci aux équipes techniques de Radio Patrimoine. Je rappelle que ce webinaire sera diffusé également et vous pourrez le retrouver en podcast hein, sur notre antenne d'ici quelques jours. Donc n'hésitez pas et puis quant à moi, on se retrouvera très bientôt pour un nouveau webinaire Web ESG. Très bonne journée à tous et à très bientôt.
Web ESR, une conférence en ligne proposée par Amundi, épargne salariale et retraite. Quelle solution retraite pour votre politique ressources humaines ? Une conférence animée par Fabrice Coustet.